When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Manon Bril.
Bonjour.
Et on boit un jus de plein de trucs, mais honnêtement, je trouve qu'il a le goût du jus d'orange.
Ouais, tout parce que bah, c'est orange, fruit de la passion, mandarine, c'est un peu naze,
c'est un
ou
mensonge.
Pas ouais.
Bah, c'est pas que c'est naze, c'est que c'est du jus d'orange.
Ouais.
Vraiment, bas de gamme. Mm. Enfin, pas bas de gamme, mais bref.
Attends, ça coûte cher, c'est pas bas de gamme,
c'est vrai.
Il est innocent, ouais.
Ouais. Bah Manon, merci d'être avec nous.
Déjà,
on est trop contente. Comme disait Justine, ça fait longtemps qu'on t'a sur notre liste.
Bah, je suis honorée.
Car oui, on a une liste de gens à inviter.
Avec, stylé.
Par
j'ai
exemple,
vu que vous
Angèle
avez
dessus.
Plein de beau monde. Ouais, grave, oui, oui. Oh, je suis aux côtés d'Angèle dans votre liste. J'adore.
Oui. Après, bon, on l'a pas eu.
On lui a pas demandé en même temps.
On lui a pas demandé. Angèle.
Exact.
On est timide.
On est timide encore. Mmh. On préfère repousser le rejet.
Qui c'est qui connaît pas Manon Bril ici?
Levez la main.
Très bien. Alors on va vous faire son acrostiche.
Tout le monde a levé la main.
C'est pas vrai. Tu es une star. Alors Manon aime comme mythologie une de ses passions. Elle en a fait une chaîne YouTube de référence sur l'histoire. C'est une autre histoire qui compte près de 700 000 abonnés.
Ah, comme antiquité, elle a un master sur le sujet, plus un doctorat en histoire contemporaine. Elle est donc ultra qualifiée pour aborder tous ces sujets en vidéo.
N comme, non mais elle est partout celle-là. Vous l'avez peut-être vue sur Arte, dans l'émission Faire l'Histoire, dans les vidéos du Vortex sur YouTube, et même au Culture Fest, un festival qu'elle a lancé l'année dernière,
oui.
Et qui a été un énorme carton, on peut le dire.
Oui, ça a été un carton, c'est vrai. Je suis bien contente.
O comme Oyer, Oyer, son podcast de vulgarisation d'histoire avec Alex Ramirez. Meilleur combo pour apprendre en s'amusant, non?
Un bonheur.
Et N comme nouvelle arrivée sur le marché du stand-up. Elle se lance dans l'humour et si c'est comme tout ce qu'elle a entrepris jusqu'ici, bah ça va être tout à fait génial.
Non, merci.
Voilà, trop c'était gentil. Manon Bril. Et j'aime trop parce que t'as commenté chacun des trucs en mode MC.
Oui, genre, pardon.
Yes. Ouais, c'est ça. Vrai.
T'as fait les bacs. Tu parles trop.
Non, t'as fait les bacs. C'était trop bien. C'était bien animé. Manon Bril, c'est un jeu de mots ou
oui,
c'est
ah
ton
oui.
Nom de... Oui, ok.
C'est un jeu de mots.
Ça aurait été fort quand même.
J'aime bien parce que les gens, ils l'entendent pas tout de suite.
Ouais.
Ou... Voilà. Et du coup, le commentaire number one sur ma chaîne, c'est ils sont pas sympas, ces parents.
Ah.
Oui, c'est un pseudo.
Voilà, c'est moi, premier degré. Ah,
non, mais en fait, j'aime bien parce qu'on l'entend pas trop. Oh, tu captes pas trop et on dirait un nom de famille. Et du coup, je me retrouve pas avec un surnom que j'ai envie de changer, là, tu sais.
Ouais.
10 ans après, là, tu vois, genre Kikoulol du 64.
Ouais.
Tu fais merde. Pourquoi j'ai appelé ma mère? Il y a plein de gens. Mais après, j'entends, tu vois, il y a une période où on avait des pseudos un peu, voilà. Et après ils font non bah en fait je vais mettre mon nom et mon prénom sur ma chaîne moi
oui tu sens pas le besoin de mettre ton vrai nom de famille après tout
ouais non c'est bon c'est pas grave c'est comme ça c'est installé
c'est vendu mais du coup on doit t'appeler docteur
s'il te plaît appelle-moi docteur
non, c'est vrai on devrait dire nous recevons docteur Manon Bril
docteur Bril
tu peux le dire professeur également voilà
et tu voulais à la base être docteur faire de la recherche.
Bah du coup je suis docteur mais je voulais aller en recherche
ouais.
Avant, encore avant, j'étais prof des écoles. Figurez-vous,
okay, oui.
J'ai
ah ouais,
enseigné
tu t'as
vraiment
enseigné
petits, pendant pas très longtemps mais pendant 3 ans.
Je viens de faire une Michel Drucker. Ah bon, t'as vraiment enseigné
enfin, ouais.
Sauf que c'était pas pour être sexiste quand même.
Non, t'inquiète. Et voilà, et j'ai repris mes études pour faire un master d'histoire, après j'ai fait le doctorat et je pensais aller en recherche mais entre-temps YouTube a croisé ma route. Donc j'ai quand même fini ma thèse et j'ai fait « Oh là là, c'est vachement mieux l'activité de faire des vidéos sur Internet. C'est beaucoup plus rigolo. »
Ça a marché très vite
Ça a marché. Alors,
pour te donner envie de continuer là-dedans, je trouve qu'il faut
oui,
qu'il y ait des moments où ça marche. Pour
ça a
avoir,
payé.
Okay.
Ça a payé.
Il y a eu l'oseille.
Bah, c'est ça. Ça m'a fait relativement vite un petit salaire avec le Tipeee des gens et tout. Puis petit à petit, j'ai pu payer l'équipe.
Alors, Tipeee,
ça.
Pardon, c'est une cagnotte.
Oui,
hein, c'est pas juste
pardon.
Quelqu'un qui te construit une cabane.
Ouais.
Le petit
et
Tipeee
tu peux
des
dormir,
gens.
T'as pas de loyer à payer, tout ça. Parce que les gens t'ont fait un Tipeee.
Et non, mais du coup, j'ai fait ah bah trop bien. Après, j'ai jamais eu une grosse explosion et tout. J'ai été là. La croissance tranquille, force tranquille, tranquillement, tous les ans, plus ou moins fort suivant les années et tout.
T'as pas eu
mais...
une vidéo buzz
J'en ai une ou deux seulement qui ont fait 1 million de vues par exemple, tu vois.
Picasso.
Ouais, les dessins animés et tout, ouais. Picasso qui était juste
oui,
un résumé
récent,
de...
Encore. Enfin, c'est plutôt
ouais,
récent.
Ça commence à dater mine de rien.
Ah ouais.
Ouais.
Je l'ai re-regardé ce matin.
Je sais qu'elle a 2 ans.
Ouais, bah voilà, écoute, c'était quand on faisait des épisodes en animation avec
Lucie. Ouais, c'est trop bien ça. Et bah, je me demandais justement, avec Camille, vous faites plus ?
Alors, on a dit qu'on arrêtait, en gros, on faisait un rendez-vous mensuel, mais c'était très éprouvant, c'est énormément de boulot, et c'était cher et tout, parce qu'il fallait payer l'équipe humaine, voilà, c'est important, mais en gros, ça coûtait 8000 balles un épisode. Donc autant te dire que avec mes petites épaules de placement de produits, parce qu'en gros c'est ça, tu vois, et de un CNC par-ci par-là, ouais. Donc les subventions du Centre National du Cinéma, c'était quand même intense. Et du coup, et surtout, c'était très fatigant d'en sortir un par mois. On se rend pas compte à quel point l'animation, bah, l'animation c'est long à faire.
Oui. Les gens, pour faire un film d'animation, des fois ils bossent 7 ans.
Ouais, voilà.
Mais c'est ouf parce qu'en plus, c'est un épisode de entre 5 et 10 minutes et on se dit oh, tout
mais
rapide.
Même pas,
tout.
Ouais, c'est en, fait, en vrai, c'est 3 minutes d'anime.
Ouais. Ah ouais,
donc il y a du blabla avant. Enfin, tu sais, je brodais un peu pour étirer le watch time, n'est-ce pas? Mais l'animation pure, c'est genre 3, 4 max. Et du coup, c'était déjà un mois de production intense. Parce que, mais aussi parce que c'était une petite équipe, hein, mais bref. Et en fait, on a dit, bon, stop, on n'en peut plus, on est sur les rotules. Par contre, on a chopé un financement pour en faire un gros. Alors gros, donc ça va être 12 minutes, du coup. Voilà, mais on bosse sur ça depuis un an.
Il n'y a pas une prod qui a voulu te racheter le concept.
Il y a eu des tentatives, mais on n'a jamais... Finalement, ils nous ont jamais...
C'est con, parce que ça, c'est vraiment une pastille que je trouve hyper...
J'aurais trouvé aussi, figure-toi.
Tellement efficace, tellement accessible.
Mais c'est pas grave, c'est... Voilà. Les projets, ils évoluent et tout.
Puis les existants sont déjà très bien. On vous invite à aller voir cette vidéo, notamment sur Picasso. Trop bien.
Oui, alors je voulais juste préciser que celle de Picasso, c'est un condensé de Vénus et Pilatelle Lachette qui a fait un super taf sur ça, mais voilà.
Ouais, trop stylé. Est-ce que ça a des conséquences si on prend Picasso? Parce que donc, c'est un homme qui est mort. Il n'y a pas de côté chasse aux sorcières en réel, machin. C'est bon, il a passé l'arme à gauche depuis, genre, c'est bon.
On n'essaye pas de le cancel, quoi.
Et, voilà. Et le fait qu'il y ait eu. L'épisode de Vénus est à vidéo. Il y a sûrement d'autres gens qui en ont parlé, mais est-ce que tu sais si ça a eu des conséquences sur, j'en sais rien, la fréquentation des musées, sur les œuvres?
Alors ça,
est-ce que ça baisse le prix de ces œuvres ou vraiment tout le monde s'en fout?
J'ai ouï dire que le. En fait, j'ai ouï dire pas, j'ai ouï dire, j'ai vu un article de Libé ultra. Enfin, assez condescendant vis-à-vis de Notaf, dire et voilà, du coup, le musée, maintenant, on doit faire. Nana. Donc je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais je trouve ça très bien. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est pas du tout, il faut fermer le musée Picasso, c'est pas du tout ça, c'est juste pour comprendre. Le travail de Picasso, tu es obligé de prendre en compte les violences qu'il a faites aux femmes. Il ne parle que de ça dans ses tableaux. Ça représente ça. Alors, il y a énormément de tableaux, donc il parle aussi d'autres trucs, mais il y a plein de tableaux où il est représenté meuf battue, machin. Donc, tu peux pas prétendre analyser. Là, tu ne peux pas séparer l'homme de l'artiste. Vraiment, c'est impossible. Tu peux pas analyser son art sans tenir compte du fait qu'il est en train de peindre une meuf qui vient de taper, tu vois.
Oui, c'est ça. T'es obligé de le compter.
Exactement.
Mais ça n'a jamais été contextualisé
Musée
Picasso, enfin...
Pour être honnête, je n'y suis pas retournée depuis enfant, je pense. Ou je sais pas, donc peut-être qu'ils ont totalement adapté, et nous ce qu'on dit c'est juste il faut prendre ça pour, en compte pour analyser l'œuvre de l'artiste, mais évidemment que c'est un monument de l'histoire de l'art, évidemment que ça a été un renouveau, exactement, on a juste besoin de préciser ça, et on peut pas dire non mais ça c'est du perso, c'est dans son art,
mais c'est carrément du mytho, enfin, normalement à côté de l'œuvre il y a un petit truc qui dit à ce moment là il a écrit ou pas, à ce moment là il violait sa meuf, c'est pour ça que
c'est le sujet du tableau, il y a 1000 tableaux de Minotaure qui violent des jeunes femmes, c'est ça, c'est son sujet, tu peux pas faire pas analyser son art sans en parler. Ouais. C'est juste ça qu'on dit, en gros.
Ouais,
après, si t'as envie d'avoir un Picasso chez toi, bon, ça te regarde.
Ouais.
Moi, ça me renvoie des trucs que j'ai pas envie, du coup.
Oui, de toute façon, globalement, si t'as envie d'avoir un Picasso chez toi, a priori, on se connaît pas.
Enfin, non, mais déjà,
on n'évalue pas dans le même cercle.
Exactement.
Hein. Non, mais
un
Minotaure qui viole une meuf au-dessus de ton lit, flemme un peu.
Non, mais tu vois,
c'est un Picasso.
Il y a aussi plein de colons, de la paix, de Picasso, des trucs comme ça. On voit souvent en carte postale, des trucs comme ça. Bon, bah, moi, j'avoue que depuis que je sais ça, j'ai pas envie.
Picasso, c'est que les dessins de gens à l'envers, un peu. J'ai que ça en tête.
Oui, aussi,
c'est notre période cubisme.
Mais en fait, il a fait énormément de trucs.
Ah ouais. Il n'y a pas que les trucs, on dirait des enfants de 6 ans.
Non, mais c'est un peu ça. C'est un peu sa période la plus connue, je crois, que les gens retiennent. Tu tapes Picasso sur Internet, tu tombes sur ces trucs tout en cube, là, effectivement.
Oui.
Mais moi, je suis allée plusieurs fois au musée Picasso quand j'étais plus jeune, je kiffais trop.
Ouais. Non, mais
quand j'ai fait 2 mois d'histoire de l'art à la fac. J'adorais, mais il faisait des trucs de ouf. Hein, évidemment, il y a des trucs, moi, je pourrais 100 fois les avoir chez moi, bien sûr, avec joie.
Ce qu'on a besoin de dire aussi, c'est pourquoi c'est un génie créateur. C'est pas juste parce qu'il est super doué, c'est parce qu'il y a une femme à la maison qui assure toutes les tâches ménagères et que lui il a tout le temps de créer.
Ouais. Enfin, voire même il y a des femmes qui leur ont donné des idées,
Évidemment, bien sûr, etc. En fait, on dit juste il faut reparler de tout ça, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est mais ça. Il n'est pas question de brûler les tableaux de Picasso.
Comme quand Sarkozy, il avait dit « J'ai pas envie qu'on me rappelle que, alors que c'est sa période, c'est la période que je préfère, où il a fait ses plus beaux tableaux, était là. » Mais gros, il était marié à une fille de 13 ans, en fait. C'est
mais
quoi
surtout,
qui est...
Mais surtout, j'ai
que
pas,
pas
envie
qu'on te rappelle.
Me rappelle. Mais excuse-nous, Nicolas. Ouais, oh non, qu'on ne me parle pas de la moindre violence, parce que je veux apprécier mon art. Ah, mais en fait, c'est comme... Enfin, là, au moment où on fait ce podcast, il y a l'histoire sur Seb Melia, l'humoriste, là, qui a été... Enfin, qui est accusé par une vingtaine de meufs. Allez, bim, je vais dans le sujet.
C'est parti, on y va.
Qui a été accusé, qui est en ce moment donc accusé par une vingtaine de meufs d'agression sexuelle et ou viol. Et du coup, il s'est fait interrompre son spectacle par des militants et militantes à Bruxelles pour foutre la merde à son spectacle, quoi, très cool. Et y a des gars devant qui sont interviewés et qui sont vraiment en mode « Oh non, mais moi, tant que je passe un bon moment.
» Ah, mais même pendant le spectacle.
Oui,
parce qu'il y a une vidéo qui a tourné où c'est vraiment les militants qui filment, mais il y a une autre vidéo qui est filmée par une spectatrice lambda, je dirais. Et vraiment, pendant que l'intervention a lieu, c'est-à-dire pendant qu'il y a les militantes qui disent « T'es un violeur !» Il y a les autres qui sont là, oh mais taisez-vous, ouais ferme ta gueule. Et on entend la meuf qui filme qui dit vraiment, mais fermez votre gueule, genre on veut profiter du spectacle. Et tu dis, mais c'est marrant de
on
vivre
veut
dans
passer
ce
une bonne soirée.
Ça c'est vraiment, je crois que c'est quand même vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre.
C'est fascinant, hein, le parti qu'on prend qui est pas de se dire, ah c'est horrible ce qu'elles ont vécu ces meufs, et de pas s'identifier ou se projeter dans l'empathie pour elles, mais juste pour, oh et ça va, enfin c'est
elles vont tout nous gâcher. Sidérant.
Exactement.
Et puis vraiment les meufs agressées en particulier, parce que encore une fois, si tu dis à quelqu'un je me suis fait cambrioler, le gars va dire ah merde, putain, tu t'es fait choper quoi,
on m'a volé mon vélo, bah on va te croire,
ah trop relou. Non mais et puis même on va être en empathie,
ah trop relou, putain, c'est chiant.
J'aurais pas aimé moi me faire voler mon vélo.
Mais alors si tu dis je me suis fait agresser, les gens ils disent de peut-être tu mens.
C'est fou,
putain,
peut-être tu mens, et puis tais-toi un peu parce que je voudrais vraiment m'amuser.
Attendez, j'apprécie mon art, d'accord,
je veux être distrait là en fait.
Et encore un art qui pareil représente des jeunes filles, bon bref, voilà, c'est genre vraiment pareil, des Gauguin, il les peint ces femmes hyper jeunes et tout, bah il faut, si tu veux analyser son art, raconte ça, tu vois, ça fait partie du sujet de son art, littéralement.
Bah c'est pour ça que parallèlement effectivement dans le stand-up, quand nous on dénonce le fait qu'il y a encore des hommes qui font des blagues qui prônent la culture du viol sur scène, on se fait engueuler en mode « mais c'est bon, c'est que des blagues », et on va dire « mais en fait, non, ça raconte aussi le moment dans lequel on vit, qui est un moment où en fait les hommes violent, et notamment dans le milieu du stand-up comme dans d'autres milieux. En vrai, oui, ça a forcément un impact, parce que si toi t'estimes que ta blague elle est drôle et alors qu'elle prône la culture du viol, désolé Pozo, mais il y a un bug dans ta tête. Ça veut pas forcément dire que t'es un agresseur, ça veut juste dire que tu vois pas le problème en fait de faire ce genre d'humour. En parlant d'humour, tu rejoins l'équipe.
Oh là là, on fait des ponts.
Non, mais donc ça, tu lances ton spectacle de stand-up. Là, t'es en création.
Ouais, pour l'instant, je m'essaye à l'exercice, on va dire. Donc ça fait un an. Genre que je fais un petit peu les comedy clubs et tout, j'essaye. Je mets le
T'as pas peur?
Je mets aussi, oh là là. Enfin, maintenant, ça commence à aller mieux, mais au début, oh, je m'attendais pas à avoir aussi peur.
Oh, terrifiant.
C'est terrifiant, mais grisant. En fait, ça m'a étonnée, pour être honnête, parce que ça m'a étonnée d'avoir aussi peur à ce point, parce que j'ai fait de l'impro très longtemps. Et donc j'ai joué dans les bars, j'en ai fait une dizaine d'années à Toulouse, tu vois. Je connais les caves où, tu vois, il y a 20 personnes, machin. Et en plus, l'impro, ça fait peur aussi quand même, tu vois. Donc j'ai quand même fait l'exercice. Et du coup, la première fois, je me disais, bon, ça va faire comme pour l'impro. Ça faisait quand même 6 ans que j'en avais plus fait, peut-être c'est pour ça aussi. Et je me disais, ça va, je connais... je sais que je vais avoir peur un petit peu avant, puis qu'une fois sur scène ça va aller et tout. Et en fait,
Je trouve que ça passe pas même une fois sur scène.
Terrifiant.
Contrairement à l'impro, moi j'ai fait les deux.
Mais
aussi.
Ça fait mille fois plus peur, je trouve.
Ouais, je trouve.
En fait, c'est il y a
le
ce truc de
ou l'impro. Mais
le
parce que l'impro, il y a
on
un côté.
Groupe.
Mais même déjà, on est en groupe et puis il y a une bienveillance du public.
Oui, les gens sont impressionnés.
Tout ce que tu dis, tu le savais pas. Donc
exactement.
En fait, ils se disent, même si c'est un peu flingué, les gens ils se disent, oh, mais quand même, elle vient de l'inventer.
C'est ça.
Et puis le côté groupe, vraiment, genre on se sauve les miches.
C'est ça. Et tu aussi tu joues des personnages, donc il y a un truc de si tu le sens pas, tu sors, tu peux rentrer ou pas. Alors que là, ouais, un stand-up, c'est toi.
Bah, les gens savent aussi que t'as écrit à l'avance.
T'as écrit.
Donc, c'est pas bien.
Donc, ça veut dire, on t'attend, tu nous as écrit des blagues, t'étais sûr que ça allait nous faire marrer. Let's go.
Mais en fait, c'est ultra prétentieux comme exercice.
Ah,
c'est genre, bonjour, c'est moi. Et moi, je suis drôle, d'accord.
Je vais vous faire
et
marrer.
En fait, bah du coup, si ça marche pas, bah il y a quand même un truc de validation.
Ah, c'est...
Donc ça va être trop peur.
Est-ce que toi, t'es pas un peu protégée? Enfin, attention, on dirait que c'est négatif, mais moi je le pense pas de cette manière-là, mais par le fait que t'as un sujet à défendre.
Alors je me cache un peu derrière ça, je suis honnête.
Parce que tu fais un espèce d'hybride histoire, ouais. Ou pas du tout.
Je fais des blagues sur l'histoire, ouais.
Mais ça,
principalement.
C'est parce que ça te protège pour l'instant, ou mais c'est parce que c'est ça que t'as envie de faire.
C'est ça que j'ai envie de faire dans mon spectacle à la fin, mais je me cache derrière ça en me disant au pire.
Ils apprennent, ils apprennent des trucs.
C'est ce que je dis moi aussi.
Et vraiment, je me protège derrière ça et ça me rassure psychologiquement. Et ben écoute, là, la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait exprès de faire un exercice où je parlais que d'un truc perso pour me forcer à faire juste les vannes et pas me planquer derrière un rôle. Mm-hmm. Ça s'est bien passé, je suis contente. Ah. Mais ouais, non, oui, normalement, c'est ma cachette. Bon, c'est aussi, je travaille ça parce que c'est ça que je veux faire sur scène à la fin et tout. C'est logique par rapport à moi ce que je fais et aussi ce que j'ai envie de dire, tout simplement.
Tu veux faire un spectacle du coup?
Ouais, j'aimerais monter une heure, un truc comme ça et tout.
Histoire et fun.
Ouais, exactement.
Ouais, bah, ça comme ça.
Histoire
Manon
et fun.
Bril dans Histoire et fun. Avec un esperluette.
Trop.
Et elle serait là avec un livre d'histoire dans la main
et de l'autre.
Et un cotillon dans l'autre.
Voilà, exactement. Ah, ça va être super. J'ai mon affiche.
Au théâtre des Deux Ânes.
Souffle dans un truc d'un côté, l'autre.
À côté de Macron. Non, c'est quoi? Macrotte.
Encore mieux, c'est son corps en bas et genre deux têtes. T'sais, une tête sérieuse avec des lunettes.
Avec
un
gros nez rouge et l'autre avec un gros nez rouge. Et un air malicieux.
Oui. Et un petit comme ça.
Oui, oui.
Parfait. Bah, c'est bon, la DA est faite.
On peut te produire.
Je peux te faire ton affiche. Nickel. Je l'ai déjà bien en tête.
Bah, oui, j'espère faire ça. Mais donc voilà, j'ai fait une année de plateau et tout pour découvrir un peu le truc. Mm-hmm. C'est un bon exo, je trouve, de pas être devant ton public acquis, machin et tout, c'est bien. Tu captes aussi beaucoup plus directement qu'avec les commentaires ou quoi, qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui, ou même juste qu'est-ce qui est compris ou non, qui a la ref. Parce que nous, dans notre petite bulle de bourgeoise féministe, là, forcément, on a nos refs en commun et tout, mais en fait, même sans que les gens ils soient juste hostiles ou pas d'accord, même sans parler de ça, il faut juste qu'ils captent de quoi tu parles déjà. Donc, c'est bien comme exercice pour ça. Ça a des conséquences sur mon écriture aussi pour YouTube. Après, je le vois maintenant, où je réfléchis plus à non, mais ça, tout le monde connaît pas forcément plus qu'avant et tout. Donc c'est cool. Et voilà, et cette année, je vais essayer de pardon, c'est trop mignon. Je vais essayer de me bouger pour vraiment écrire au moins cet été, écrire un vrai une heure ou en compilant ce que j'ai déjà ou quoi. J'ai trouvé un metteur en scène qui est super, Théo, que j'embrasse.
Et t'écris toute seule?
Pour l'instant, j'écris solo, mais de temps en temps, je me pose avec des potes qui font du stand-up et on se donne des retours de temps en temps.
Ouais.
Voilà.
C'est important.
Ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est carrément. Notamment, justement, j'ai écrit avec Élie Houry, qui tient le Comedy Club de Orléans. Et c'était hyper intéressant parce que, justement, il pouvait me donner des regards de non-spécialistes et de non-aficionados des sujets féministes et tout, en étant totalement... un allié sur les sujets, mais en mode ok, alors moi la meuf je sais pas de quoi tu parles, tes rêves parisiennes et tout, et c'était trop utile et intéressant d'avoir ce retour là, merci à lui. Donc voilà,
tu disais que ça t'a aidé pour tes vidéos, mais en même temps tu l'aurais su si dans tes vidéos quand des gens comprenaient pas, enfin ils l'auraient écrit en commentaire.
Oui de ouf.
Donc, est-ce que
mais je lis pas trop les commentaires déjà, moins qu'avant, parce que bon, les commentaires.
Tu lis les premiers quand tu sors la
ouais,
vidéo.
Voilà, je regarde un petit peu. Bah, je regarde
les
justement.
Les premiers sympas quoi.
Je regarde justement pour voir s'il y a pas une grosse connerie ou quoi, parce que des fois ça t'arrive, tu laisses une coquille de date, un machin, contresens, ça arrive à tout le monde, voilà. Donc là, je peux
les gens adorent.
C'était en 1973 et non pas 72.
Voilà, donc je peux
avec cette voix.
Tu connais vraiment rien.
Il parle comme ça. Comme ça, je peux corriger, mais en vrai. Dans toute l'argumentation de toutes tes phrases, t'as pas les réactions directes de. Alors que quand tu fais sur scène, tu fais. Ok, là je vois qu'il me regarde avec des billes toutes rondes, si la phrase d'après il rigole et que je les ai récupérées.
J'ai senti
je peux
qu'il
capter
pas capté,
que voilà, ce passage-là il est pas clair, ou que là je pensais que c'était drôle et apparemment ça l'est pas, et ainsi de suite. Enfin, après, c'est un peu fascinant, je trouve, de voir qu'il y a des endroits où. Avec le même texte, tu cartonnes. Bon, ça dépend de toi aussi, de comment t'es en forme. Ça dépend de qui est passé avant toi, après toi. Ça dépend du public et tout. Mais c'est assez fascinant de voir comment tu le fais des milliers de fois.
C'est ouf cet exercice de regarder les gens dans les yeux. Enfin, quand tu dis que tu vois quelqu'un avec ses billes toutes rondes là, qui comprend rien, moi je suis là genre, si je m'arrêterais, je dirais qu'est-ce qu'il y a, tu comprends pas. Je suis en PLS.
Bah moi j'ai tendance, quand ça fait ça et que j'ai peur, j'ai tendance à débiter le texte très vite, regarder mes pieds, justement c'est pire.
Oui.
Mais j'apprends. Voilà.
Donc, et tu prends du cool. plaisir maintenant.
Ouais. 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 Mais ça a mis un peu de temps. Ah, mais en fait, au début, ça me faisait ah, horrible. J'ai eu trop peur. Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je m'inflige ça? Ok, le but, c'est de pas tomber dans les pommes et tout. Et en fait, non, mais je te jure vraiment. Et après, et de sortir le plus vite possible de scène sans bafouiller. Alors qu'avant, elle répète, je suis là, faut que je dise ça comme ça. Et sur scène, je suis en mode, non, il faut juste que je survive. Ok. Mais dès le lendemain, à chaque fois, je suis là, je veux recommencer. Donc, ouais, non, en vrai, c'est un peu étrange.
Vous avez pas envie de le faire. Ensuite, sur scène, c'est compliqué, mais stylé, et le lendemain c'est oh vite recommencer.
Ah oui,
on est sous emprise. Ah ouais, vraiment,
c'est
mais sous emprise
de la, dopamine probablement, ou de je sais pas quoi d'ailleurs, l'adrénaline
effectivement,
mais
du trac.
Mais ça y est, je commence à prendre plaisir par contre. Okay. Mais toi, ça reste, non, ce stress?
Bah, moi, je fais pas les plateaux.
Ah, tu fais.
Moi, je fais mon spectacle, effectivement, devant mon public. Moi.
Comment t'as procédé, du coup?
Moi, j'ai vraiment écrit quasiment d'une traite, genre 20-25 pages, quoi. Qui sont pas du tout ce que je joue aujourd'hui, qui ont évidemment beaucoup bougé. Mais moi, j'ai vraiment besoin. Bah non, enfin, oui et non.
T'as fait le spectacle illico.
J'ai fait d'abord le spectacle, mais j'ai travaillé avec des gens. Je me suis assez vite entourée de personnes, notamment à l'écriture, pour qu'on puisse que j'ai déjà un regard extérieur, parce que je me serais jamais sentie d'y aller toute seule avec juste un truc que j'ai écrit, mais je sentais que les plateaux, j'y arrive pas parce que l'exercice me dérange, et du coup c'est con, parce que c'est un peu facile, parce que du coup je joue devant mon public.
Non, après, je te comprends.
Quand je joue en tournée, je me rends compte que je joue aussi devant des gens qui sont les habitués des salles où je suis, donc ça va, c'est pas mon public. Jean-Michel, 57 ans, c'est pas ma cible à la base.
So what, en fait?
Bah, parce que les plateaux, il y a un vrai intérêt, c'est que tu améliores vraiment par tranche de 5-10 minutes. Tu améliores, et ça, je le vois, parce que moi, en spectacle, sur mon heure, des fois, je teste une nouvelle vanne, un truc, je m'autorise une impro et je le garde. Mais c'est vrai que je peux pas réécouter à chaque fois.
Mais toi,
pas,
c'est surtout
vois,
que techniquement, c'est compliqué de sortir 5 minutes de ton spectacle.
Non, ça doit pouvoir se faire. Mais c'est vrai que j'ai tout le temps pensé le truc en une entièreté quasiment. Il y a un ou deux extraits que je peux sortir. Mais je me suis aussi rendu compte qu'à la fin de mon spectacle, notamment, j'ai un extrait qui est pas du tout engagé, qui est vraiment juste de la blague potache.
Bien vulgaire.
Et un jour, je l'ai essayé en plateau, ça tout seul. Et vraiment, j'étais là. Ouais, ça fait marrer les gens, mais en vrai, je m'en fiche.
Oui, et puis t'as pas besoin de l'améliorer.
J'ai pas trouvé. Il est bon. Ça peut toujours.
Bien sûr,
on n'est jamais parfait.
Non, je suis bien d'accord, mais c'est pas le passage. Voilà.
En plus, c'est pas le passage déjà très bien. Mais j'y ai même pas pris tant de plaisir, parce que je suis là, mais en fait, je sais que techniquement, j'arrive à vous faire rire en disant ça à tel moment.
Mais c'est pas ce que je veux
ça
que vous retenir
moins.
De moi.
Mais comme je fais de l'humour vraiment féministe, sur des sujets vraiment engagés, effectivement, ça mériterait en vérité d'aller le confronter en plateau avec des gens qui sont pas convaincus, et que ça m'obligerait à
avec des habitués de blagues misogynes au Paname, par exemple. Vas-y.
Au Paname, ça change un peu, mais effectivement dans
c'est pas du tout contre le Paname, c'est le seul truc que je connais,
le plateau de stand-up,
le plateau,
c'est le plus connu,
truc, c'est le seul truc que je connais de tous les trucs.
Aucun truc,
rien.
Non, mais en plateau, effectivement, tu passes, moi j'en ai fait, je me retrouve devant des effectivement à Paris, des groupes de CSP+, pour peu qui sont volontairement de vie de garçon. Merci, quoi. Je suis là, les garçons, vous êtes chiants.
C'est sûr que t'adaptes aussi moi, je choisis pas les mêmes extraits suivant où je vais, évidemment.
Et je suis pas à l'aise, et en fait, ça me...
Parce que pour moi,
envie de me confronter.
Si tu te prends un trop gros carton, en fait, ça te coupe juste les pattes.
Carton, tu veux dire?
Un trop gros bide, pardon.
Dans le sens négatif,
oui, plutôt. Si tu te cartonnes trop fort, en fait, moi, je trouve que ça te coupe juste les pattes, et je suis pas de l'école de faut être à la dure, machin. Mais c'est cool un peu de réfléchir à, ok, comment je veux récupérer, je voudrais récupérer les gars sur tel passage, s'il y a des gars dans la salle, machin.
Je pense que vous avez raison, en vrai.
Je suis même pas invitée, en fait, dans les trucs qui sont pas un petit peu d'accord. Enfin, les gens, ils voient mon contenu sur les réseaux sociaux. Donc, pour l'instant, je trouve que j'ai plutôt été épargnée, mais il y a un effet Comedy Club qui est quand même pas très agréable, qui est la comparaison directe avec les autres. Et donc ça, c'est assez douloureux, je trouve. Alors que, en fait, dans la vie, on est déjà nous, dans nos tafs, on est tout le temps soumis à nos propres stats, à des nombres et des notes en permanence. Donc évidemment, déjà tu te compares avec toi, mais cette vidéo, elle a fait plus que la précédente, ou moins, avec toi-même, et en plus avec les autres, forcément, que tu le veuilles ou non, tu vois, t'as les chiffres sous le nez. Mais alors en Comedy Club, l'effet, il est immédiat. Il y a machin qui a le public, il était hilar, moi moins, pourquoi moins. Ou à l'inverse, j'ai tout déchiré alors que les autres non. Enfin,
est-ce que tu arrives à entendre, c'est-à-dire, est-ce que tu sais si t'es juste avec moi? C'est ça aussi que j'ai du mal, c'est que parfois je suis là, genre j'ai pas marché, et les gens ils disent si, ça a rigolé, et je l'entends pas. Enfin, je sais pas comment.
Ça m'est déjà arrivé que je dise ça et qu'on me dise si, ça va, mais je sais jamais s'ils disent ça pour remonter le moral.
Oui, donc tu sais pas si t'arrives à être.
J'ai une copine qui m'a dit l'inverse, la pauvre, elle avait, du coup je vais pas dire son nom, parce qu'elle a peut-être pas envie, mais elle me dit ouais, j'ai fait un, je lui dis comment ça s'est passé, elle avait un gros truc et tout, et elle me dit bah moi j'ai trop kiffé, et à la fin tout le monde est venu me voir en faisant oh tu sais c'est pas facile de passer après machin ou oh ah là là moi je trouve que tu mérites tellement plus de rire horrible ah oui, et elle était là et elle était là mais moi j'avais passé un bon moment et tout alors je sais pas tu vois mais bon bref mais bon donc après c'est pas toujours facile d'avoir un avis, c'est pour ça que c'est pas mal de s'enregistrer
oui, c'est vrai.
Mais
oui, c'est vrai.
Bon bref donc les comedy clubs ça a des avantages et des inconvénients, j'ai pas mal de potes qui sont déjà installés dans le métier qui y vont plus pour ces raisons tu vois, qui disent ben Alex justement Ramirez il me disait que lui il avait plus envie d'y aller, je crois que Swan elle le fait pas, je crois que Jérôme Niel il le fait pas, enfin tu vois
oui il y a quand même des gens qui sont qui,
et il y a, des, y a aussi des gens ça. Qui font que des plateaux jamais de spectacle ouais.
Y a aussi... parce que ça peut aussi, oui, aussi. Être un piège, c'est-à-dire ouais. Que c'est à dire que j'ai force de faire les plateaux humoristes ouais. Qui disent mais en fait à force de faire les plateaux t'as un 10 minutes par exemple qui est génial, enfin qui ouais. Est forcément bah, méga rodé, envie de le faire cartonner partout. Ouais. Et du coup, c'est un piège parce que tu dis si je teste des nouveaux trucs, ça oui. Va pas marcher, donc c'est mon ego va prendre un coup. Ouais. Donc au final, tu t'enfonces là-dedans. Et on t'appelle pour faire ça en plus parce qu'on sait que tu cartonnes quand tu fais ça. Donc si tu fais autre chose et que tu cartonnes pas, bah putain, on t'a mis en tête d'affiche. Ouais. Enfin bref, c'est un cercle risqué aussi.
Il y a un truc social aussi dans le truc où t'arrives. Ben ce soir, je vais jouer dans un nouveau, enfin dans un nouveau pour moi, je veux dire. Et du coup t'es en mode c'est la première fois, j'ai pas envie de faire un truc où je suis pas sûre de moi, parce que sinon le public c'est une chose, mais les autres humoristes j'ai l'impression qu'ils vont me coller une étiquette de bon bah elle est pas drôle et tout, ce que moi-même je pense que je vais faire, la fois où je vois une personne qui a pas trop marché je fais bon bah cette personne
oui. Peut... mais oui on est comme ça,
mais c'est terrible parce que on doit essayer, enfin c'est le principe des comédies clubs, c'est que tu vas tester,
c'est pour
quoi.
Tester pour essayer pour construire des blagues, donc du coup
c'est crash test, mais ouais c'est dur quoi.
Bon mais si à la place tu te mets dans tes petits chaussons, bah au final tu utilises pas l'exercice, tu fais juste pour faire de l'argent. Non, mais ce qui
si
marche
tu,
aussi hein,
si mais... tu le fais effectivement autant le faire à fond, mais moi
c'est franchement j'ai pas de
pas le faire du tout.
Bon voilà, après il y a des super plateaux j'adore où on est que des meufs ou que des minorités ou des trucs comme ça, là on se sent trop bien et je kiffe, genre le Yas Queen ou le Good Girls Comedy Club, ça fait trop du bien. J'ai vu aussi en tant que spectatrice la Mounette, c'est trop bien. Bon bref, je trouve ces endroits là c'est quand même, ça fait du bien aussi d'être porté et... carrément.
Est-ce qu'on passerait pas au bol à question, bol à question, bol à question, question. Yeah.
Allez.
Alors, ici, tu as les questions chill et ici,
attends, ça fait trop mille ans, tu veux pas faire un petit jingle du bol à question?
Ah oui.
T'as dit ça fait trop mille ans, t'as 6 ans.
Le bol à question, le bol à question, le bol à question, t'as une question et un bol.
C'est pas mal. Tu veux chill ou deep?
Il y a deux bols.
Alors on va commencer chill, comme ça on va s'échauffer, tranquille. C'est des questions que vous avez prises sur les réseaux sociaux?
Par rapport à toi? Ah non, non, ça te concerne pas.
Non, je veux dire, vous avez fait un appel aux gens ou c'est vous qui avez cherché les questions?
C'est nous qui avons cherché, je te mens pas qu'il y en a beaucoup qui viennent de les 100 questions à poser pour être amis avec quelqu'un. Enfin tu vois, des trucs de merde comme ça. Les
top.net.
Ouais, exactement, .org.
Quelle série voudrais-tu redécouvrir pour la première fois?
Ah.
Alors, qu'est-ce qui m'a procuré énormément de bonheur? Il y en a beaucoup, je mate énormément de séries. Peut-être Drag Race. Parce que c'est une série, je sais pas, mais... Enfin oui, c'est une série. Allez, bah, c'est... Oui, il y a une série de vidéos, littéralement. Putain, je suis vraiment tombée dans Drag Race depuis quelques années. Je suis complètement accro et merci les drags. Vous matez
J'ai pas regardé Drag Race US,
ouais.
Mais j'ai...
T'as maté France.
J'ai maté France direct. Et quand je disais aux gens qui n'ont pas vu de regarder, genre Camille, j'étais là, mais oh la chance de pas encore avoir vu. Comprends trop ce truc de vouloir revoir. Et
c'est
d'ailleurs,
trop bien.
J'ai vu la saison 1, puis la saison 2, et après j'ai rematé la 1.
Ouais, j'adore. Bah, moi, je suis vraiment tombée dedans. J'ai un abonnement à la plateforme de World of Wonder, ça s'appelle la plateforme de tous les drag races du monde entier.
Trop stylé.
C'est 6 balles par mois, c'est le meilleur abonnement de ma vie.
J'avoue, mais ça va prendre du temps.
Ça
regarde
énormément.
Il y en a dans tous les pays.
Il y en a dans beaucoup de pays, enfin, pas tous les pays, mais ça s'est beaucoup développé. Ça fait plaisir à voir par les temps qui courent que cette émission elle cartonne à travers le monde. Alors, je me doute qu'elle a plein de défauts comme toutes
est-ce
les grosses productions et tout.
Parce que moi, pardon, je regarde pas. J'abuse. Je sais pas pourquoi je regarde pas d'ailleurs, parce que je pourrais carrément.
Bon après,
mais
voilà,
je suis pas tombée dedans, mais il y a
mais
que
en plus,
des
t'aimes
drag
bien
queen,
un peu les télécrochets.
Il y a aussi des drag kings.
Alors, pour l'instant, c'est très axé drag queen. Il y a de plus en plus des drags plus fluides, genre gender fuck, des créatures aussi, tu vois, plus des bestioles que une incarnation d'un genre. Mais c'est quand même axé très drag queen, ce qui est un des reproches qui est fait à l'émission, et notamment on dit faites venir les drag kings s'il vous plaît putain, comme d'hab les meufs, enfin parce que les drag kings ne sont pas que des meufs, mais c'est beaucoup des meufs. Et donc, bah, comme d'hab, ils ont moins de place.
Après, dans les drag queens, là, des deux dernières saisons, il y a des meufs trans, il y a des...
Ouais, de ouf. Mais ça, c'est déjà super. Oui, c'est pas en que fait, des en mecs vrai, on voit
derrière
les...
le masque.
Non, on voit l'émission évoluer par rapport aux premières saisons, qui sont très grossophobes, dans la transphobes
et tout. Tu parles des premières saisons
des
US,
premières saisons US, des... Oui, oui, bien oui, sûr. Oui.
Parce que les deux drag race France, enfin, je sais pas, j'ai pas de ref, mais je les trouve genre méga inclusives.
Non, de ouf, ils ont fait un super taf de casting. Ouais. Ouais,
pour le coup,
super.
En plus, Drag Race US, parce que j'en ai regardé un peu, et arrête-moi si je me trompe, mais il y a un truc très ricain,
oui,
malveillant, oui. Brouille un peu, genre, oui, qu'il n'y a c'est... pas du tout dans Drag Race France, et c'est pour ça que j'ai pas trop
je comprends très
accroché
bien.
Et continué, parce que j'ai regardé la saison où il y avait Nikki Doll, parce que je voulais trop voir, et j'étais là, mais... Elles sont méchantes.
Oui, elles sont très méchantes. Et encore, c'est pas la pire. Alors moi, c'est ce qui a fait, j'avoue, que j'avais commencé. Et en fait, j'avais maté Queer Eye. Vous voyez Queer Eye.
Ouais.
Donc, full la bienveillance plus. Et évidemment.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Netflix, du coup, bah m'a proposé Drag Race et j'ai fait ah, voyons, et j'ai fait wow, alors que je venais de Queer Eye où c'est tout le temps ah, oh, t'es magnifique, t'es super et tout, et là j'ai dit mais c'est horrible. Bon, évidemment, j'ai fait un amalgame, rien à voir. Et donc, au début, j'ai essayé et lâché à cause de ça. Je suis revenue après parce que plein de gens de mon entourage en parlaient, mais pas avec la, commencez pas avec la première saison US, c'est trop vénère et ça a trop mal vieilli. Mais genre, peut-être la 6, la 9, on dit souvent qu'il faut commencer par la 6. Ouais. Bon, bref. Et en fait, j'ai fini par quand même tomber dedans parce que c'est, ça reste une télé-réalité. Et donc, c'est fait pour que tu t'accroches. Exactement. C'est fait pour que tu t'accroches au personnage et tout. Mais oui, elles sont régulièrement assez dures, les américaines. Et ça, j'avoue, c'est ce qu'on n'aime pas trop.
Ouais.
Mais en même temps, c'est des performeuses de malade.
Voilà, c'est ça. C'est ça que tu regardes.
Il y a aussi plein de messages de représentation qui sont très importants, de représentativité. Où voilà, et ça, l'émission, toutes les émissions longues où en fait, tu vois les queens se préparer et elles discutent de leurs problèmes. Justement, la transphobie, l'homophobie qu'elles vivent et tout, en grande partie, ou le racisme, voilà. Et c'est super qu'ils laissent ça dans les montages et qu'ils le mettent en avant. Donc, bon, c'est une télé-réalité, anyway. Mais la française est beaucoup plus soft. Et la belge aussi, elle est soft, par exemple. Si jamais. La canadienne aussi, je l'ai trouvée plus soft, etc.
Plus bienveillant.
Donc, ça se voit. Enfin, en fait, t'as un peu les stéréotypes qui vont avec les personnalités des pays, si je puis dire, mais quand même, ça transparaît un peu dans les façons de faire. J'adore la version anglaise. Bah, les anglaises, elles s'envoient des fions aussi. mais il y a l'humour anglais qui est génial. Enfin, tu vois, bon, bref.
J'ai trop envie de voir la québécoise, du coup, je savais pas qu'il y avait.
Il y a pas une canadienne, pas québécoise. Elle est anglophone. Ouais. Mais c'est. Ben, il y a des québécoises, du coup, dedans.
Trop bien.
C'est très cool.
Ok, donc t'aimerais redécouvrir ça.
Ouais.
Bah, je vais découvrir. Allez,
c'est du glow.
Alors tu vas t'y mettre. Mais en plus, t'aimes bien les.
Oui, mais ça dépend de ma vibe. Il y a des moments où j'ai envie de regarder des shows, des TV shows comme ça, et d'autres moments où je suis dans les séries. Et là, je suis dans rien. J'ai envie de rien regarder. Donc,
t'as bien raison.
Bah, la Starac est finie, c'est ça.
Le Starac. Enfin, t'es préférée. Non, je regarde encore la Starac, mais ça prend pas. Enfin, t'as une quotidienne, je veux dire, de 40 minutes. Ça va pas me prendre ma série du soir, tu vois. Dans tous les cas. Non, j'ai tout revu. Ouais, Met Your Mother, mais je viens de
finir. Putain, dur, hein.
Ouais, ça a
dur
mal
revoir.
C'est très dur à revoir, mais je suis quand même retombée dedans.
Ouais.
Et notamment
mais
la dernière saison
quand même tout
qui
maté.
Est nulle à chier. Genre, la dernière saison, il n'y a rien. C'est nul, genre, c'est vraiment de la merde.
Et mais surtout, Barney Stinson, je me suis rappelé que c'était mon personnage préféré.
Bah, bien sûr.
Et là, j'ai fait... Mais
un enfer.
Quel enfer.
C'est un enfer. Il est
horrible, ce personnage.
Ouais.
Et en fait, c'est un peu fascinant comment on change. Hein. Parce que moi, vraiment, je me souviens, je regardais avec mon ex et tout, c'était notre personnage
préféré. C'était il y a 10 ans, c'était pas non plus il y a 35 ans. Tu vois. C'était il y a 10 ans, on l'adorait. Aujourd'hui,
c'est
tu le regardes,
ouf.
Tu dis, oh, son but, c'est que de pécho des meufs.
En mentant.
Jeune, en mentant. Et tout le long de la série, il dit que le plus gros problème d'une femme, c'est quand elle grossit.
Ouais,
c'est
ouais,
comme
oui,
dans Friends.
Mais... Ouais, dans Friends, il y a une grossophobie latente.
Friends, c'est 10-15 ans avant. Oui, mais déjà, il y a 10 ans, c'était très différent.
Oui, mais, non, mais
depuis 10 ans, t'as enfilé tes lunettes de woke.
Moi, je me suis rendu compte à quel point, effectivement, grossophobie et transphobie, c'était même pas relevé. Enfin, c'était vraiment des vannes, genre.
Normal.
La pire chose, ce serait qu'en fait, avant, elle me dise qu'elle avait un pénis. Enfin,
oui,
tu vois,
c'était la blague préférée de tout le monde.
C'est terrible. Et dans Friends, en vrai, il y a d'autres inclusions qui sont plus modernes. Oui. Parce qu'en vrai, dans Friends, le
oui, il y a le couple lesbien.
C'est terrible à dire parce que je dis le père de Chandler alors qu'en fait, c'est devenu c'est
oui.
une femme.
Oui, oui,
c'est devenu une femme trans. Donc il y a de la transphobie,
mais tu vois l'évolution,
il y a quand même ce personnage.
Tu vois l'évolution, dans le, si je me rappelle bien. Tu vois qu'au début, il se moque beaucoup de son père en robe. Et qu'en fait... Au bout d'un moment, les saisons avançant, parce que ça s'étale sur...
Et notamment, à la fin, j'aurais dit, elle est trop belle.
En fait, ils se
voient à Vegas. Ouais,
voilà, ils finissent par se retrouver. Donc, tu sens que les auteurs et autrices de la série ont...
À Vegas.
En fait, c'est qu'ils le mégenrent tout le temps. Ça, c'est sûr. C'est mégenré.
Oui.
C'est sûr et certain. Ils disent toujours,
à la
il est
fin,
toujours
il
le père.
Pas...
Ah oui, non. Ils mégenrent tout le temps, mais il y a un lien... Il y a un lien qui se recrée et surtout il y a de la représentation. C'est à mon avis une des premières femmes trans représentées à la télé. Alors est-ce que c'est bien fait, mal fait? Évidemment on peut prendre avec des pincettes. Là où dans How I Met, il n'y a rien. Toujours est-il que, en fait, pour avoir revu les deux récemment, enfin Friends je le revois tout le temps et How I Met je ne l'avais jamais revu, How I Met a bien moins vieilli.
A moins bien vieilli.
Alors que c'est plus récent.
Friends, il y a des trucs qui sont catastrophiques, mais il y a des trucs qui sont assez ouf en effet, genre ça. Notamment le couple lesbien, qui n'est pas un couple de camionneuses, machin. C'est pas un sujet, alors il y a un peu le truc de la loose pour Rose.
Oui, voilà, il dit ça.
Mais déjà, pour l'époque, t'es là, c'est
contre les clichés. Elles sont stylées et un peu empower en mode laisse-nous tranquille Rose.
Pas que des camionneuses soient pas stylées, mais juste qu'il y a avec eux cette représentation-là, et là au moins il y en a un autre style. Enfin bref,
grave.
Il y a des trucs qui sont surprenants de modernité et d'autres. Voilà.
Oui, c'est vrai, il y a plein de paradoxes. Et donc, c'est ça la série que t'aurais aimé revoir?
Pas du tout.
À How I Met?
Non, parce que si je l'avais découvert, j'aurais jamais continué. Jamais j'aurais continué. Non, je pense la série que j'aimerais. C'est évidemment, c'est Normal People. Puisque je pense que je mets Normal People et même Ted Lasso.
Ted Lasso,
parce
c'est
que quand
bien.
Je l'ai regardé, j'ai trouvé. C'est mes deux séries coup de cœur récemment. Et je trouve que. Enfin, Normal People, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai attendu exprès, genre un an, un truc comme ça, avant de la revoir en me disant j'ai besoin de l'oublier un peu. Ouais. Et je pense que je vais me faire ça régulièrement.
C'est sur quoi?
Je sais pas si elle se trouve. Tu parlais de la plateforme ou de l'histoire?
Oui, je parlais de la plateforme, mais les deux m'intéressent.
Elle a été pendant un temps sur France TV, mais elle y est plus.
D'accord.
C'est sur genre Stars Play, qui est un onglet d'une autre plateforme.
Mais c'est pas sur Prime, normalement.
Je crois qu'elle est pas disponible sans payer en plus, tu vois. Je crois que c'est quand même un truc qu'il faut un peu payer en plus, mais honnêtement, si vous pouvez prendre le. Tu sais, des fois, t'as 7 jours d'essai, un truc comme ça.
Vous la faites,
ça vaut vraiment le coup.
Il y a qu'une saison.
Il y a une saison, 8 épisodes, et c'est fini.
C'est une mini-série.
Envie de voir ça alors.
Ma vie. Pour redécouvrir ça avec des yeux neufs.
Et toi, Justine?
J'hésite entre genre une série que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et mince, je voudrais trop la revoir, ou une série à l'ancienne et j'adorerais la découvrir maintenant.
Dis-nous les deux, fais-toi plaisir.
Dans la série à l'ancienne que j'adore, c'est Desperate Housewives. J'aimerais trop la découvrir.
J'ai pas réessayé.
Tu crois que t'aimerais?
Je suis sûre. Mais je l'ai revue il y a genre 2-3 ans et j'ai toujours aimé. Alors. Okay. Et alors, est-ce que j'ai vraiment, pas relevé des trucs qui auraient mal vieilli? Mais enfin, on est déjà quand même vraiment sur 5 meufs.
Oui.
Hyper badass, hyper bien écrites. Après, il y a des trucs border, évidemment. C'était quoi, il y a 15 ans, Desperate Housewives. Donc il y a des trucs border, mais je m'en rappelle plus trop.
Ouais.
Après, c'est quand même 5 meufs hyper belles, bien foutues, blablabla.
Blanche.
Enfin,
blanche.
Il y a Gabi
qui est latino. Latina.
Mais il y a de temps en temps une meuf issue de la diversité qui arrive dans chaque nouvelle saison. Mais oui, c'est pas méga inclusif, effectivement. Mais par contre, les rôles sont ouf, les intrigues sont ouf. Je la trouve ouf, cette série. Je trouve le seum que ce soit réalisé par un mec. bref, et sinon, non, là, il y a pas longtemps, j'ai vu, mais je crois que je l'ai peut-être déjà reco, Blue Eye Samurai, un animé.
Tu connais pas?
C'est trop bien. Et j'aurais aimé ne pas l'avoir vu.
C'est vrai.
Pour le revoir maintenant.
Putain, trop bien, je parie.
Je pense que je vais la regarder. Je pense que je pourrais le. Je sais pas, ça va te plaire.
Bah, me dégoûte pas d'avance,
pardon. Alors, j'ai hâte de voir. Je vois pas trop comment ce serait ta cam, mais vas-y, regarde. Non, c'est trop bien. C'est trop bien.
Ok.
Voilà, je pourrais trop revoir ça.
Allez, on a le temps pour une deuxième question. Ouais.
Allez, une question deep alors.
On a papoté comme pas permis.
Ah oui, je suis bavarde. Toujours.
Et nous?
Et nous alors?
Je pense bien.
Alors, as-tu déjà brisé un cœur? Oui, malheureusement. Et j'en suis pas fière, c'est un des pires trucs de ma vie. J'ai trompé, j'ai trompé, je suis partie pour quelqu'un d'autre et c'était horrible, j'ai détesté. Et d'ailleurs, c'était dans cette histoire d'emprise. Ça faisait très longtemps que j'étais avec quelqu'un, je suis tombée sous l'emprise d'un autre gars. Je me suis retrouvée à faire tous les trucs que j'ai pas envie de faire, comme tromper mon mec.
Ah oui, c'était même pas un mal pour un bien.
Non, ouais.
Oui, c'était... parce que parfois on part pour quelqu'un, on aime une autre personne.
Oui, oui. Je savais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'était un peu comme ça que je me disais, mais n'empêche qu'il y a eu chevauchement, n'empêche que machin. Ouais. C'était atroce, je pouvais pas me regarder dans la glace. En fait, en gros, je sais pas si je vais mettre ça sur le compte de la lâcheté, de l'histoire que je me suis racontée, mais il y a eu chevauchement parce que mon ex, il passait un concours et je me suis dit... vas-y, je vais pas lui infliger une rupture, un déménagement, on habitait ensemble et tout. L'horreur, le scénario de l'horreur.
Oui, toi, tu voulais le quitter de base.
Oui, je voulais direct, je voulais le quitter parce que je me disais, il mérite pas du tout d'être avec quelqu'un qui l'a trompé, c'est pas du tout ok. Parce que je savais déjà qu'avec l'autre, ça allait être compliqué et je savais même pas si on allait se mettre ensemble ou pas. Mais je me disais, non, tu dois quitter ton mec, t'as commis la trahison ultime. Donc, il mérite d'être avec quelqu'un qui fait pas ça. Et donc, voilà. Mais par contre, il passait un concours et je me suis dit, vas-y, je peux pas.
Ouais, c'est rude.
Mais je sais pas à quel point je me suis dit ça et c'est ma cachette de, si tu vois, de l'acheter.
En tout cas, c'est rude.
En tout cas, c'est
rude. Comprendre que c'est dur à ce moment-là.
C'est l'histoire que je me suis dit. Donc, ça a duré quelques mois comme ça, le temps qu'il passe son truc. Mais vraiment, en plus, la scène, c'est que le jour où il revient de son épreuve, j'ai ma valise et je suis comme ça et je fais.
Allez, c'est bon, bye.
Out of nowhere. Du coup, lui, il a rien vu parce que du coup, je me suis appliquée à pas lui montrer. Enfin, l'enfer, la double vie. Ouais. J'ai détesté en plus ce truc paradoxal de vivre une passion intense et de l'autre côté de se sentir comme une énorme merde avec un gars qui a rien fait à personne, qui est super, qui mérite pas du tout ça. Bref, j'ai détesté et je lui ai pas dit parce que je me suis dit, enfin je lui ai pas dit que je partais pour quelqu'un parce que je me suis dit vas-y, il a pas besoin en plus de se faire traîner comme une merde. Et comme après j'ai compris bien après que c'était une bien plus grosse affaire et que ça allait devenir un MeToo et que ça allait être dans les médias et tout. Je me suis dit, en fait, deux trucs. Je me suis dit déjà, no way qu'il apprenne par les médias et pas par moi. Et ensuite, je me suis dit, parce qu'il va capter le chevauchement, forcément. Et ensuite, je me suis dit aussi, comme cette histoire de ce MeToo dans lequel je m'étais retrouvée, il y avait eu énormément de mensonges. En gros, moi aussi, j'ai appris qu'il y avait 1000 meufs en même temps que moi, alors que soi-disant, on vivait une passion incroyable et tout. Et que toutes ces meufs, elles vivaient soi-disant une passion incroyable et tout. Bref. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis mangé énormément de mensonges et tout. Je veux plus, moi non plus, avoir des mensonges. Donc, je veux aussi dire la vérité parce que je veux plus fonctionner comme ça. Et donc, je lui ai dit, et évidemment, il n'a pas bien vécu, même si c'était longtemps après. Je comprends totalement et je suis dégue d'avoir fait ça. Je le regretterai toute ma vie. En parallèle, je me suis dit, mais moi, j'ai trop mal vécu cette situation. Je me suis détestée. Et l'autre, en face, qui m'a inventé des vies qui n'existent pas et m'a... Lui, il mentait comme il respirait dans le plus grand des calmes. Et j'étais là, mais comment c'est possible? Enfin, moi, vraiment, j'en ai perdu du poids. Enfin, tu vois, genre, je le vivais vraiment pas bien, tout en le faisant. Hein. Voilà, je veux pas faire l'ange. Je regarde infiniment, mais je trouve ça incroyable d'avoir aucune empathie pour la personne que tu... Enfin, bref, c'est fou. Ça m'a encore plus, par miroir, du coup... Révélez-le, mais c'est quoi ce malade? Bon, bref, voilà. Donc, j'ai brisé un cœur et j'ai détesté. Et j'espère que ça m'aura bien servi de leçon. Voilà.
Et B.
Et toi? Mais on n'a pas déjà tiré cette question?
Non, on n'a pas répondu. Ah non, si,
on avait
pas
répondu. Sophie Marie.
Alors
et toi? Et toi?
Ah oui, c'est vrai, c'est Sophie Marie qui a répondu.
Bon, moi, je crois pas avoir brisé de cœur, mais peut-être. Mais je crois pas. Enfin, je m'en rappelle pas l'avoir fait. Moi, on m'a grave brisé le cœur, par contre. Mais j'ai pas le souvenir, moi, d'avoir brisé un cœur.
Bah, c'est bien. Ne le faites pas, c'est nul.
Ouais.
Ouais. Après, tu quittes quelqu'un, tu brises un cœur.
Quand je dis on m'a beaucoup brisé le cœur, c'est qu'on m'a que quitté, quoi.
Oui, d'ailleurs. Non, mais ça, tu vois, moi, je le compte pas dans le sens où t'es réglo, en fait. Tu respectes l'autre, même si ça lui fait mal, tu vois. Là, moi, j'ai pas respecté l'autre, tu vois. C'est pas réglo.
Oui, bon.
Non, mais enfin, je sais pourquoi c'est arrivé dans ma vie, pour un milliard de raisons de où j'en étais, de qu'est-ce que l'autre en face, il a comblé toutes mes failles, que machin. Bref, je sais pourquoi ça arrive.
T'es pas...
j'ai détesté, bon, bref, voilà. Ouais. Mais n'empêche que c'est arrivé, que je l'ai fait, voilà, je veux pas dire, je l'ai fait, hein, c'est moi, hein, c'est. Bref, je pouvais ne pas le faire aussi, hein, mais bref. Donc, ça, pour moi, c'est pas respectueux, alors que quitter quelqu'un, bon, bah c'est pour le ça va lui briser le cœur.
Non, j'ai juste un tout petit souvenir, mais que j'étais vraiment petite, enfin j'avais genre
t'as brisé un mini cœur,
mais non. En fait, c'est que l'anecdote, je la trouve, j'étais en colo, j'étais amoureuse d'un garçon vraiment, et j'étais hyper copine avec son frère. Il avait un frère qui avait genre un ou deux ans de moins, tu vois, et j'étais trop pote. Et un jour, le frère.
Ça pue le nos jours heureux avec le petit gars qui fait genre
son
à aux potes.
Son frère, un jour, il m'a dit. Non, mais c'est ça, son frère, il, un jour, il m'a fait une déclaration d'amour.
Oh. Bah, nos jours heureux.
Mais moi, je suis amoureuse de ton frère. C'est horrible. Et du coup, j'étais là. Non. Et j'ai détesté. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, effectivement, à quel point c'était dur. Enfin, j'aime pas trop quand les gens ils disent c'est encore pire de quitter quelqu'un que de se faire quitter. Bah, en vrai, non. Enfin, en vrai, mais je le pense pas, tu vois. Vraiment, je crois pas. Mais néanmoins, en effet, j'ai détesté devoir dire à un gars bah, je t'aime pas. Enfin, j'ai trouvé ça horrible. Je trouvais ça effectivement très très dur à dire.
Ouais.
Surtout que on était jeunes et tout. Donc, je me dis, il a dû prendre son courage à deux mains comme pas permis pour mais dire allez, je lui révèle. Et moi, j'étais là.
Il y a un truc à faire sur ça, hein, sur le pourquoi quand on nous rejette. C'est pas une invalidation de qui on est ou machin, et aussi pourquoi on n'est pas des mères de dire non. Il y a vraiment un gros problème qui se joue là-dessus où on n'a pas été éduqué comme ça et tout, mais ça réglerait tellement de problèmes aussi de réussir à dire de manière saine et en fait tu me plais, c'est pas réciproque. Bon bah ça me fait mal, normal, ça me... normal ça te fait mal, sinon tu t'en tapes de la personne. Ben voilà, j'ai su un peu mes larmes, mais je passe à autre chose, c'est clos.
Je suis fascinée par les gens qui se quittent bien. Je suis fascinée qu'ils se quittent en mode mais genre ça leur fait mal mais ils sont en mode bah de toute façon je te souhaite le meilleur parce que t'es quand même une belle personne.
Bah oui. C'est donc... la preuve que normalement t'as vraiment aimé la personne, t'as aimé la personne pour ses valeurs.
Oui bah je sais, mais pourquoi moi j'arrive pas, enfin c'est impossible. Je suis en mode quoi, mais je suis
mais parce que si tu
te m'auto-flagelle de ouf en mode mais du coup ça veut dire que je suis nulle.
Bah non, parce qu'en vrai elle t'a aimé
et du coup non, je lui souhaite pas le meilleur avec une autre meuf, non j'ai le seul, c'est horrible.
Bah ça dépend comment c'est fait, comment ça se passe. Pour moi ça dépend si une trahison ou pas.
Oui aussi,
of course, mais si c'est normal et que la personne n'a plus de sentiments.
Mais écoute, ma dernière rupture s'est passée comme ça et c'est incroyable et c'est trop super.
Ah ouais, ouais. En mode l'un des deux.
En fait, ça marchait pas. Non,
ça marchait pas. Ça marchait pas.
On avait plutôt encore des sentiments, mais on se prenait la tête tout le temps et on a fini par dire bon, faut qu'on arrête.
Ouais.
Et en fait, faut qu'on arrête. Et du coup, on est en bon terme et c'est très cool. Alors évidemment, faut le temps
de séparation,
exactement, d'éloignement, parce que comme en tout cas au moment où on s'est séparé, ça commence à faire à date et dire non, mais au moment où on s'est séparé, il y avait quand même encore clairement des sentiments, mais juste un dysfonctionnement.
Ouais.
Bah il y a besoin de pas se voir, sinon on laisse la porte ouverte, voilà. Mais
oui, mais vous étiez tous les deux d'accord pour dire que
en fait, on a dit ok, là, on n'y arrive pas, en fait. Tiens, t'es super, toi aussi t'es super, mais il faut qu'on...
Oui, oui.
Bref,
ça, je peux imaginer. Bah... Mais un amour non réciproque, je trouve ça...
Ouais, c'est dur.
Difficile. Genre, je t'aime plus. Oui, mais c'est moi dur encore.
Parce que c'est vrai que tu te sens invalidé.
Vas-y, aime-moi encore, s'il te plaît.
Ouais, c'est dur.
Non, ah, ok.
Bon, mais bah, ça cause du chagrin de ouf.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le pire chagrin du monde.
Mais c'est vrai que c'est une des pires douleurs.
Ouais. C'est fou,
ça fait très mal.
Alors qu'en plus, on sait que ça va passer. Moi, c'est ça me rend zinzine. Mmh. C'est vraiment de me dire oh, tu souffres, t'as mal, tu te dis ça va jamais aller mieux, alors que tu sais que ça va aller mieux.
Oui, mais toi, ça allait mieux.
Mais c'est impossible.
Mais moi, je crois qu'il faut. On en a besoin de le sentir comme ça. T'as besoin de sentir les émotions.
D'accepter le chagrin.
Mais par contre, il y a un truc de quand tu l'as déjà vécu et que tu te retapes le chagrin d'amour après, tu fais ah non, flemme. Ah non, je vais en chier pendant des mois, là, je sais. Ah non, j'ai la flemme. Moi, les dernières ruptures, j'ai fait oh non, ça va durer longtemps, je vais penser qu'à ça pendant. Voilà, deux mois après je vais être en colère après je vais oh non j'ai la flemme de faire
tout le process, je le connais par cœur
mais n'empêche qu'il marche, il prend son temps mais il marche, je crois qu'il
il sert à quelque chose émotions, quoi.
Je crois
pour faire genre
allez sur ces belles paroles,
allez, blablabla.
On se tient la main et on y va deux par deux. On est quasiment, ça fait presque une heure qu'on papote, papoti papota, est-ce que tu as une recommandation ou quelque chose que tu n'as pas
elle a préparé
tu veux mettre
j'ai
en
une
avant.
Bonne reco à vous mettre en avant,
allez
et c'est aussi une émission de télé-réalité,
question pour un concours, je sais pas si vous connaissez.
J'ai une petite fascination. Alors c'est sur Netflix et vous allez adorer les meufs si vous avez pas déjà. Est-ce que vous avez entendu parler de l'émission Siren?
Je l'ai regardé.
Non,
tu l'as regardé?
Bah attends, je sais, j'ai regardé un reportage quoi.
Non
c'est quoi toi?
C'est un concours aussi télé sur une île déserte.
Que moi j'ai vu les personnes qui sont sirènes comme métier.
Non.
Sirènes de métier.
Ok, non, c'est pas ça. Comme ça.
C'est n'importe quoi.
Alors,
C'est d'un triste. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast. C'est d'un triste.
Pourquoi ? Ça les rend pas heureuses de faire sirène ?
Parce que le métier il est horrible. En fait, ça te détruit la santé.
Ah oui, ok,
tu fais des hypothermies. Il y a évidemment un shaming pas permis parce que dès que t'es un peu grosse,
t'as pas le statut de sirène.
Tu rentres pas dans la queue. Tu peux pas y aller. Si, tu peux te faire fabriquer une queue, mais c'est juste qu'il faut te hisser hors de la piscine et tout. Malgré tout, il faut de la force. Il faut une vraie condition physique.
Tu corresponds pas au stéréotype de la sirène.
Tu corresponds pas au stéréotype complètement. Par rapport à si t'es blanche et blonde ou rousse, formidable, tu vois.
Ariel,
mais elles ont des vies et c'est très mal payé. Enfin, c'est
Mais je savais pas que c'était une profession. Moi, je croyais que c'était quelques aficionados.
Justement, il y en a pas beaucoup.
Donc rien à voir, RAV.
Ça m'intéresse totalement par contre.
Alors, vous allez adorer, je pense. Enfin, je vais essayer de bien vous le pitcher. En gros, donc c'est un concours, encore une fois, une télé-réalité un peu Koh-Lanta, mais mieux. Donc c'est sur une île déserte. Ouais, mais vraiment. C'est sur une île déserte. Il y a plusieurs équipes avec des bases dans l'île, ok. Donc au début, elles ont fait une épreuve et la première a pu choisir en premier sa base. Et
c'est que des filles, du coup ?
Les équipes.
Ah, pardon. Justement.
Oula, elle a le
justement. C'est que des femmes. Et donc, le but, c'est de récupérer... Alors, quand la sirène retentit, c'est pour ça que ça s'appelle sirène, mais rien à voir avec la beauté ou je sais pas quoi. Quand la sirène retentit, ça fait... comme ça. Enfin, je le fais pas bien, c'est pas du tout ça, mais bref.
Quand ça la sirène du mercredi midi.
C'est le téléphone portable. Il y a des gens qui ont ça en réveil matin.
Je peux les gifler.
Ils sont dans une piole avec d'autres gens, ils mettent ça, mais barrez-vous, c'est genre...
Donc quand la sirène retentit, t'as le droit d'aller attaquer les bases des autres. Il y a un drapeau dans la base, il faut trouver le drapeau et l'arracher et t'élimines l'équipe qui s'est fait prendre la base.
C'est un poule renard vipère, c'est ce que
oui, un peu. Oui, moi j'y jouais quand j'étais au Scout Lake, les éclaireuses de France que j'embrasse. Et t'as aussi un drapeau individuel dans le dos. Si tu te le fais retirer, t'es éliminé le temps de la partie. Donc tu peux plus, elles sont quatre par équipe. Et donc c'est que des femmes, et les équipes c'est des corps de métier. Il y a les militaires, les gardes du corps, les cascadeuses, les athlètes, et qu'est-ce que j'oublie ?
Et c'est leur vrai métier dans la vie ?
C'est leur vrai métier dans la vie, c'est des malades. Et donc vraiment c'est incroyable, genre c'est pas du tout sexualisé ou je sais pas quoi, c'est les femmes fortes de Corée. Parce que pardon, j'ai oublié de dire que c'était une émission coréenne.
Ah oui.
Et donc c'est parce que j'ai regardé Squid Game en vrai, et après pareil l'algo Netflix il m'a mis ça et j'ai fait mais c'est incroyable. Et c'est alors j'ai oublié quoi comme corps de métier, les gardes du corps, je sais plus. Bon bref, c'est des meufs mais elles font des prises de c'est incroyable. Et donc elles sont là, elles font des stratégies, elles font OK, cette nuit on va attaquer, il y a les policières aussi.
C'est des guerrières, quoi.
Les policières et les pompiers, elles sont graves ennemies parce que sur le terrain, se croisent souvent et tout. Il n'y a rien à gagner. Juste défendre l'honneur du métier. Elles sont venues se battre dans la boue.
Il n'y a pas une prime à la fin.
Non, il n'y a rien à gagner. Elles sont là pour l'honneur. C'est incroyable. Je vous jure, c'est ouf.
Je m'en fais jamais.
Ah non, mais c'est trop génial. Et
les
donc,
youtubeuses.
Et c'est pas du tout des... Non, mais c'est des meufs qui... Enfin, voilà, les militaires, elles font... OK, on va...
Alors, c'est de la stratégie pure.
C'est de la stratégie et du physique.
Bah oui. Et elles se tapent.
Alors, t'as pas le droit de faire volontairement mal. D'ailleurs, il y en a qui sont trop violentes, donc elles prennent une... Je te jure, non, mais elles sont malades. C'est incroyable, c'est trop jouissif, en fait. En fait, ce serait des gars, ce serait un truc masculiniste insupportable.
Boring, déjà vu.
Mais comme c'est des meufs, t'es là, mais quoi ? Mais elles sont ouf et tout. Et en gros, la journée, je pense qu'elles ont des bracelets qui calculent combien elles se dépensent ou quoi dans les diverses activités qu'elles font et tout. Et le matin, entre 8h et 9h, il y a le magasin qui est ouvert et elles peuvent aller échanger les calories brûlées contre de la bouffe, du matériel, mais genre des cordes, des bombes fumigènes, des pelles, des machins. Genre vraiment, c'est en mode.
C'est
ah non, mais c'est incroyable. C'est pas du tout.
T'as envie de savoir combien elles ont gagné pour voir
glamour, ce qu'elles
achètent.
Pas du tout glamour, je sais pas quoi. Bah, du coup, mais même pas, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, il n'est pas question de perdre des calories pour du poids ou c'est pas ça. Hein. C'est juste, elles arrivent les militaires, elles arrivent, elles font nous, on a 3000 calories aujourd'hui, ok, on prend ça et tout. Là, elle empoche les Tokiwoki, prend les Tokiwoki et tout. Et elles font, OK, cette nuit, on va aller espionner la base des gardes du corps parce qu'elles sont au bout de l'île et tout. Et elles font des stratégies, elles s'allient avec les cascadeuses pour faire ça. Enfin, vraiment, c'est... Et en plus, la narration des épisodes est bien montée, ce qui fait qu'évidemment, t'es tenu par des cliffhangers et
évidemment.
Tout. Et c'est trop, trop bien. Et après, il y a des épreuves dans la journée sur l'arène où, par exemple, elles doivent couper 30 bûches pour faire du feu, ensuite arroser les feux des autres et l'éteindre le plus vite possible et machin. Enfin, c'est que des épreuves d'endurance, de force et de stratégie. Et c'est trop jouissif de voir les meufs qui envoient, tu vois, qui envoient du bois... Bref, je vous conseille
trop bien.
Sirène
sûr, sur Netflix.
Et j'ai tout maté en deux jours, alors que c'est 10 épisodes d'une heure. tu vois. Je les ai avalés. Ouais, voilà, ouais, exactement.
Okay,
bref,
okay.
Je vous recommande ça.
Je vais mettre ça en faisant mon puzzle.
Ouais. C'est trop bien. Enfin, franchement, j'ai envie. Après, t'as beaucoup plus d'heures sur Drag Race. Mais j'ai trop envie de. J'essaie de le recommander à tout le monde parce que je veux avoir le retour des gens. Je suis là, putain, je veux des briefs avec quelqu'un. Donc j'ai commencé à le. Je l'ai rematé avec Charlie Danger et Mélanie de la Manie du Cinéma. On s'est fait une séance, elles étaient là. Ah, ok, c'est incroyable. Je dis, ah oui, je vous l'avais dit. Bref, maté Siren, vous allez voir. Et j'espère qu'il y aura d'autres saisons. Faites-leur des vues là pour qu'il y ait d'autres saisons.
Trop bien. Et toi, Justine?
Je viens de terminer Gen V, qui est la suite. Ah oui. Le spin-off de The Boys que j'avais déjà recommandé ici, je crois. Et c'était trop bien. C'est toi qui m'as recommandé de regarder. C'était trop bien. Au début, j'ai eu peur des premiers épisodes.
Moi, au contraire, j'ai entendu une critique comme toi de personne qui a pas trop accroché au début et qui a adoré au fur et à mesure. Moi, c'est l'inverse.
Non,
j'ai accroché au tout début. Et après, ça m'a un petit peu plus. J'ai trouvé que.
Non, j'ai accroché au début, mais il y a un peu, tu sais, un monde parallèle façon. Bah, la forêt, là, milieu.
Ah oui.
Il y a un peu un monde parallèle façon. Truc qui fait trop peur, là, que je regarde plus, là, avec les enfants, là, qui vont dans des mondes parallèles. Là.
Stranger Things.
Ouais.
Mais sauf que là, c'est pas un monde parallèle, c'est juste un hôpital psychiatrique où ils enferment
mais ils
des
vont un
gens.
Peu dans les rêves des gens et tout. Enfin bref, il y a des trucs chelous. J'aime pas trop les mondes parallèles. Mais bref, et c'est non, c'est trop stylé. Il y a des personnages ultra badass, trop bien écrits, avec des pouvoirs trop marrants.
En fait,
genre,
c'est un peu
The
Boys,
contrôle
mais
le sang.
The Boys, mais version un peu ado. Enfin,
ouais, c'est
un
ça.
Peu plus teenage,
mais
pas ado,
version
ils sont
à la fac.
Ils sont
à la fac, ouais.
Plutôt un genre de fac.
Version jeune, version Jones.
Jones.
Ouais.
Et j'ai bien aimé aussi. Je suis d'accord.
Je recommande ça. Très bon divertissement.
Ouais, c'est vrai.
Trop bien.
Beaucoup de cliffhanger également.
Voilà.
Bah oui,
ça t'a
oui, envie de regarder la fin de l'épisode, t'as envie de cliquer sur celui d'après. En effet.
Est-ce que maintenant, vous faites pas genre lancer l'épisode d'après, vous regardez la réponse au cliffhanger et vous quittez?
Non.
Je sais, maintenant je suis là. Effectivement, tu vas pas m'avoir. Je vais regarder la solution et après je m'en vais.
Ah, c'est pas con. C'est pas con, mais je
continue. Quand c'est bien fait, on continue. Et on regarde en deux jours Sirène, par exemple.
Et moi, je vous conseille, dans un autre registre, un livre. Il est possible qu'on en ait déjà parlé parce que c'est le livre La crise de la masculinité de Francis Dupuy-Déry, qui est donc un sociologue. C'est un quoi, Francis? Ce bon vieux Francis qu'on adore.
Non, on a déjà parlé de son podcast Thinkerview, enfin de son intervention dans Thinkerview, qui s'appelle La crise de la masculinité. Donc, il doit parler beaucoup des mêmes choses.
Bah, en gros, bah, parce qu'il a dû être invité pour faire la promo, probablement.
Certainement.
En tout cas, c'est un. Moi, je vais dire sociologue, mais à prendre avec des pincettes. En tout cas,
très
c'est
bien.
Un analyste québécois
qui analyse la crise de la masculinité.
La crise de la masculinité. Il faut savoir que le sous-titre, c'est Autopsie d'un mythe tenace. Parce que souvent, quand j'en parle, les gens capte pas que lui il est contre les masculins. Enfin, je veux dire vraiment, c'est le but, c'est pas de nous dire elle existe. Justement, le but, c'est de dire que c'est un mythe, qu'elle existe pas ou en tout cas pas vraiment, que surtout de tout temps, mais vraiment depuis genre l'Antiquité limite. Je dis n'importe quoi parce que je sais pas.
En plus, elle parle à une historienne.
Je vais pas dire ça à toi parce que oulala.
Depuis jadis,
il y a à chaque fois les hommes qui disent ouin, nous on est en crise depuis tout le temps. Donc en fait, leur crise elle est interminable. Ça s'appelle juste être des gros chouineurs, à mon avis. Donc, évidemment, vous vous doutez bien que dès que les femmes obtiennent quoi que ce soit, et nous. Voilà. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. C'est pas facile forcément à lire parce que c'est un essai sociologique. Donc, c'est pas une histoire qui se lit, tu tournes pas les pages en mode vite la suite. En vrai, c'est aussi. Moi, j'adore lire les travaux faits par les femmes. Hein. Bien sûr, en majorité, je lis ça. Mais je dois avouer que ça fait quand même du bien de temps en temps d'avoir un allié franc du collier parce que pour le coup, Francis, j'ai vraiment l'impression que c'est notre gars sûr. Enfin,
lui, il est en mode, je comprends même pas que les femmes, elles aient toujours pas
tout cassé,
buté des gars.
Ouais, ouais, clairement. Genre, exactement. Et ça fait du bien aussi de voir, d'entendre un homme, parce que lui, il parle aussi de sa position, donc dedans, et en plus, dedans, il parle pas du féminisme, il parle de la masculinité. C'est évidemment plein de chiffres, plein d'études, plein de raisonnements. Moi, ça fait écho à beaucoup de choses qu'on peut entendre, justement, les gens qui sont anti-féministes et qui disent des arguments de merde, du style que les hommes sont lésés, que les hommes perdent des choses, se suicident plus, perdent la garde de leurs enfants, etc. Et tout ça, c'est évidemment très documenté que c'est vraiment des énormes conneries. Alors après, qu'ils soient mal dans leur peau, les hommes, et qu'ils comprennent pas le changement du monde,
c'est absolument
c'est pas notre faute, du coup, il me semble.
Bah oui, surtout que nous, on dit venez, on veut un monde mieux où vous aurez le droit de pleurer. Vous allez voir comment ça ira mieux après quand vous pourrez pleurer et tout.
Et c'est, c'est très renseigné, ça donne plein d'arguments, plein de réponses. C'est évidemment très intéressant de découvrir la naissance du mouvement masculiniste qui en fait naît, et ça c'est fou, je crois dans les années 70, quand il y a. Est-ce que c'est la première ou la deuxième vague du féminisme?
C'est 70. La première?
C'est peut-être la première. Et donc,
il y a des idées avant.
Voilà,
bien sûr,
non, évidemment. Mais en tout cas, en réponse à ça, il y a des hommes qui se sont dit, nous aussi, on va faire des groupes d'hommes pour justement non mais à la base c'était
oui les groupes exclusivement masculins,
voilà,
et il en est sorti des trucs bien pires alors qu'ils étaient bien intentionnés entre guillemets,
voilà,
en mode
à la base ils se disaient
on va, comme
aussi.
Ça on va comprendre voilà. nos biais et en exactement. Fait ils sont devenus encore pires. Oui j'ai entendu mais en fait, ça je l'ai entendu dans les couilles sur la table je pense
genre, on pouvait pas laisser les hommes entre eux quoi.
C'est quasiment systématique,
c'est pire.
Si tu laisses des hommes entre eux même s'ils ont des bonnes intentions ça se transforme en un boys club de
quoi qu'ils
vont chouiner, là où quand les femmes se réunissent elles parlent vraiment de leur discrimination. Et en fait, ce qu'ils répètent sans cesse dans le livre, et ça c'est absolument un argument qui est imbattable, c'est que quand les hommes chouinent au maximum, qui râlent de tout ce qu'ils veulent, qui dirige ? Qui sont les propriétaires de terre ? Qui sont les patrons ? Qui sont les dirigeants
riches.
Au pouvoir ? C'est toujours des hommes. Donc en fait,
qui sont ceux qui font la guerre ?
Mais exactement, et pareil, mais ils sont là genre
qui sont ceux qui font des accidents de voiture ?
On féminise les métiers, et après il te sort les chiffres, il dit en fait, ils sont là à se plaindre que depuis qu'on laisse rentrer les femmes dans la police, blablabla, bla, bla, en fait, il y a un pourcentage genre 3% de femmes, et t'es là genre fermez-la. Ils disent n'importe quoi. C'est voilà. Donc
c'est un livre qui dit que les hommes ils disent n'importe quoi.
Globalement qu'ils ont pas trop besoin de d'avoir des preuves, ils disent un peu n'importe quoi et puis ça passe. Comme Zemmour, par exemple. Zemmour en est une preuve absolue.
Oui.
Je peux me permettre de dire n'importe quoi. Et puis, on verra bien ce qui se passe.
Et je peux faire de la politique. Voilà. Et tous les jours,
et
à la
avoir
télé.
Des votes. Ah, bon, d'accord. Voilà, donc je vous le conseille en sachant que c'est un essai. Donc,
qui s'appelle encore, t'as dit
La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace.
Et si toutefois, comme moi, vous n'aimez pas lire, eh ben,
non plus.
Regardez quand même le.
Tout à fait.
Le Thinkerview.
Moi non plus, j'aime pas lire. Je vais aller regarder le Think.
Non, mais t'as raison, c'est une très bonne alternative parce qu'à mon avis, il l'a fait dans le cadre de la promo de ce livre. Donc,
Oui. Parfait. Et vraiment, c'est très intéressant.
Bah, super.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Ouais.
Manon, on peut te suivre sur ta chaîne YouTube, c'est une autre histoire.
Tout à fait.
Sur ton compte Instagram, Manon Bril. Et en stand-up, si vous êtes à Paris et que vous voulez aller la voir.
Oui. Et bah, ça se passe sur Insta pour voir les petites stories de où je suis. Carrément. Avec
super.
Plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Bye. On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro.
Merci. Bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.